Notre invité avec Léa Salamé, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, 01 45 24 7000. Pour vos questions, amis auditeurs, je salue Guillaume au standard. Bienvenue sur Inter.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Actuellement, au nord de la Syrie et au sud de la Turquie, il y a une population qui sont les Kurdes, qui sont en train de mener une réelle révolution antipatriarcale et sociale et directe. Bon, on pourrait rajouter des épithètes. Donc, quand on parle de pragmatisme et de valeurs, comme là on a parlé, monsieur de Villepin, alors j'imagine que les valeurs en tant que gaulliste, ça va être la résistance. En tant que Français, ça va être les valeurs issues de la Révolution française. Donc pourquoi, quand on parle de valeurs, de pragmatisme, on ne soutient jamais les Kurdes, on ne peut médiatiser jamais l'action des Kurdes actuellement? Et surtout, pourquoi est-ce que la France continue à maintenir le PKK comme organisation terroriste et continue à considérer le PKK comme organisation terroriste? Et pourquoi la France ne tape-t-elle pas du poing sur la table face au fasciste Erdogan, qui est actuellement en train de justement bombarder les Kurdes, de Syrie, sous le prétexte que eux, ce seraient les terroristes, en retournant la proposition. Et ça, c'est absolument, si vous voulez, juste, moi je suis Toulousain, je suis espagnol, et c'est exactement la situation qu'a vécu ma famille en 36, quand les révolutionnaires espagnols se faisaient bombarder par les franquistes, et que la France les a foutus où? Dans des camps de concentration. Alors là, effectivement, les Kurdes, on les met pas dans les camps, mais concrètement, le fait de ne pas les aider, ça revient, d'une certaine manière, à les laisser aux fascistes, alors en l'occurrence islamistes. Bon, à l'époque, c'était des catholiques, mais là, en l'occurrence, ce sont quand même des fascistes religieux.
Bien voilà. Compris, Guillaume. Merci. Dominique de Villepin vous répond.
Oui, je crains que vous ne mélangiez deux choses. Le nécessaire soutien de la France à des communautés ou des groupes, et c'est vrai que les Kurdes ont payé un lourd tribut dans la lutte contre l'État islamique, et de ce point de vue-là, après avoir travaillé avec eux, il serait dommage que les différents pays occidentaux, et au premier chef les États-Unis et les pays européens, les abandonnent. Mais nous sommes obligés aussi de prendre en compte la réalité géopolitique de ce qui se passe en Syrie, et plus largement au Proche-Orient. On ne peut pas trouver une solution sans la Turquie. Et on est obligé de prendre en compte les préoccupations de la Turquie en ce qui concerne le respect de ses frontières et le risque...
Fait ce qu'elle veut, la Turquie.
Et le risque de ce qui se passe dans le nord de la Syrie avec la constitution d'un État tampon soutenu par les États-Unis
à vocation kurde. On a l'impression que chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui.
Mais c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver entre la position des uns et des autres un intérêt général, tirer un fil extrêmement fin et délicat, et c'est pour ça que tout cela ne peut pas se faire sur le plan médiatique. Ça demande un travail extrêmement difficile pour essayer de joindre tous ces bouts. Et il faut trouver un intérêt général entre ces différents pays. Et malheureusement, l'histoire prouve qu'effectivement, souvent les sacrifiés, ce sont ces groupes qui sont très utiles dans certains moments, mais abandonnés dans d'autres.
Jenny à La Rochelle, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci beaucoup. Ma question est toute simple. Je voudrais savoir comment vous conciliez le mot diplomatie, les droits de l'homme et le fait que la France est l'un des principaux vendeurs d'armes.
Merci Jenny pour cette question, Dominique de Villepin.
Alors c'est une question qui me touche au cœur parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal comme diplomate à aborder ces questions de vente d'armes parce que je ne suis pas je ne suis pas convaincu justement que nous ayons toujours trouvé les bonnes et fines politiques, en particulier quand il s'agit de vente d'armes à des régions en guerre, à des pays en guerre, et donc je suis très gêné par les positions souvent de la France qui multiplie la recherche de vente d'armes à des pays belligérants ou des pays qui ont vocation à devenir belligérants.
Quand la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, oui, qui doit servir sur le Yémen, c'est ça que vous voulez dire que des bombes françaises tombent sur le Yémen?
Je m'interroge, et je comprends très bien que ce soit difficile, une mesure difficile à prendre pour les Français seuls, mais je trouve que l'Europe se grandirait à réfléchir à ce que pourrait être une politique de vente d'armes des Européens et qui, de ce point de vue-là, serait plus respectueuse d'un certain nombre d'objectifs et de principes.
Si ça on sert veut, à tuer en même temps les armes.
Si,
donc
justement, si on veut la paix, on les vend si à on qui veut la paix au Proche-Orient, à un moment donné, il faudrait, je pense, être plus responsable dans le choix de nos cibles et dans la politique qui accompagne ces ventes d'armes.
Il faudrait arrêter de les vendre à qui, Dominique de Villepin, là?
Justement, je pense que les pays en crise, les zones en crise, les régions en crise ou en guerre devraient faire l'objet de plus d'attention. que notre politique de vente d'armes soit guidée par le souci de permettre à des pays de se défendre, même si la frontière est difficile entre des armes défensives et des armes agressives. Mais je trouve que, en tout cas, à tout le moins, notre politique de vente d'armes devrait s'accompagner d'un souci encore plus grand de notre diplomatie, d'agir en direction de la paix.
Mmh. Aurélie, bonjour. Aurélie qui nous appelle de Paris. Bienvenue sur Inter.
Bonjour Nicolas, bonjour à toute l'équipe, bonjour Monsieur de Villepin.
Bonjour.
Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour votre superbe discours de 2003, si je me souviens pas, qui m'a vraiment, vraiment rendu fière d'être française. Aujourd'hui, j'ai honte d'être française en lien avec la politique de Monsieur Macron en termes de migration. Qu'en pensez-vous en fait, cet appel en fait aux migrants économiques qui viennent de Londres et puis ce refus des migrants économiques et des migrants qui fuient des zones de guerre, que je trouve absolument insupportable.
Merci pour cette question, Aurélie. Oui, Dominique,
merci. C'est sans doute la question aujourd'hui la plus difficile pour les dirigeants français et pour le président de la République, parce qu'il faut à la fois prendre en compte la réalité de l'inquiétude d'une grande partie de la population française, en faisant preuve donc de plus de fermeté, et en même temps rester fidèle, c'est la devise du président de la République, en même temps rester fidèle à ce principe d'humanité. Force est de constater que, à l'épreuve des faits, sur le terrain, l'humanité n'est pas suffisamment au rendez-vous. Et c'est la fermeté qui prime. Et moi, ce qui m'inquiète dans la période actuelle, c'est de voir se mettre en place une mécanique administrative aveugle qui comporte, à mon sens, deux risques. Le premier risque, c'est celui de la déshumanisation dans le traitement de ces différentes situations, il y a le risque de nier un certain nombre de droits humains qui sont au cœur de notre engagement de Français et au cœur de notre histoire.
Quels sont les risques?
L'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Il y a une obligation d'accueil et d'hospitalité.
Par exemple, la circulaire Collomb. Qui demande de...
qui demande le contrôle des centres d'accueil. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans cette logique administrative aveugle où chacun aurait le sentiment de faire son travail et au bout du compte, nous mettrions en péril un certain nombre de droits humains des étrangers. Alors, ceci s'accompagne d'un autre risque et c'est peut-être là qu'est la solution. L'autre risque, c'est celui de vouloir, d'être tenté de criminaliser le travail d'un certain nombre d'associations sur le terrain, associations religieuses, associations humanitaires, qui se font un travail formidable et qui sont indispensables. Ma conviction, c'est que le gouvernement ne doit pas se couper des associations. Nous devons rechercher avec ces associations qui sont au contact et qui détiennent une grande partie des clés. N'opposons pas l'État, un État dur, un État ferme, à des associations qui seraient laxistes. Je pense que c'est par les associations que nous pouvons trouver la réponse.
Donc vous venez apporter votre voix comme d'autres qui ont soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne, Pisani Ferry.
Je crois qu'Emmanuel Macron dans la campagne a dit des choses très justes et que la tentation au pouvoir, c'est de renier une partie de ce discours. Nous avons besoin de la société civile pour répondre à la question des migrants. Je comprends très bien l'intérêt politique qu'il y a aujourd'hui.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il gouverne justement? Vous avez l'impression qu'il gouverne sur cette question-là en suivant l'opinion plus que ses convictions?
Je crois que c'est la tentation, oui. Je crois que c'est la tentation de vouloir marquer des points en direction de l'opinion par le biais d'une politique qui comporte de grands risques.
Dominique de Villepin, je crois que vous étiez secrétaire général de l'Élysée en 96 quand Jacques Chirac a décidé de supprimer le service militaire. L'Élysée n'a pas encore tranché, mais Gérard Collomb, hier à ce micro, a dit qu'il souhaitait que le service national universel soit obligatoire. Est-ce que c'est une bonne idée?
J'avoue, je suis partagé parce que je crois que le réalisme fait que nous devons être très prudents dans les promesses que nous faisons aux jeunes Français. Aujourd'hui, mettre en place un service obligatoire sans bénéficier sur le plan militaire des infrastructures de l'armée pour accueillir ces jeunes, ça réduirait le temps du service militaire à quelque chose de très court, de très symbolique, d'un peu gadget. Je comprends bien l'unité d'un creuset national, de faire en sorte que les Français se connaissent mieux, que ces jeunes Français puissent avoir une expérience commune. Mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas partir dans une direction qui nous coûterait à la fois très cher et qui serait très peu utile.
Alors, quelques réactions sur Internet. TWT dit que le discours de Dominique de Villepin, le vôtre, sur la politique internationale est à la fois désuet, mais tellement pertinent. Christine de Lyon nous dit que cela fait beaucoup de bien de vous entendre, Dominique de Villepin. Macron vous a-t-il consulté sur les questions diplomatiques pendant sa campagne? Première question, s'il vous avait proposé le Quai d'Orsay, qu'auriez-vous répondu?
J'avais répondu à l'avance que je n'accepterais pas, que je ne le souhaitais pas. Je crois qu'on doit arriver à partir d'un certain moment à prendre acte qu'une nouvelle génération doit venir et que d'autres voix doivent s'exprimer. Moi, j'apporte mes visions.
Vous le voyez, vous parlez ensemble?
Ça m'est arrivé, oui, pendant la campagne et un peu après. Mais il est assez grand pour prendre ses décisions tout seul. Je ne crois pas qu'il ait besoin de conseils.
Léa, où on retourne au standard, où Francis nous attend. Bonjour Francis.
Bonjour à l'équipe et bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Revenons au Moyen-Orient. La France a été très présente lors de l'accord sur le nucléaire de juillet 2015. Ne pensez-vous pas que maintenant, pour ne pas décevoir nos partenaires européens, nous, France, devrions être plus présents, notamment à travers l'Europe, pour faire en sorte que ces sanctions financières soient définitivement levées et que l'Iran puisse vraiment commercer avec l'Europe sans que nos banques aient peur des sanctions américaines? Les Iraniens, en substance, nous reproche d'être frileux vis-à-vis des Américains, alors qu'on a été en première ligne pendant très longtemps.
Merci Francis, Dominique de Villepin.
C'est un point très important de la recherche de la paix au Moyen-Orient. En effet, l'Europe et la France ont pris une position sans ambiguïté en dénonçant la position américaine. Je crois qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, dans notre relation avec l'Iran, nous sommes tenus par le privilège du dollar et par la jurisprudence qui a touché certaines banques françaises et qui, par les sanctions américaines sur ces banques, limite notre capacité à agir en direction de l'Iran. Nous devons accompagner l'Iran dans la voie de l'ouverture. Plus l'Iran s'ouvrira, plus l'Iran sera responsable et plus les groupes radicaux, et en particulier les Pasdaran, auront moins voix au chapitre en matière économique. Donc de ce point de vue-là, oui, il faut faire un pari sur l'avenir. Et je pense que l'Europe doit se dégager de la tutelle américaine. C'est vrai en matière de défense, c'est vrai en matière monétaire. C'est pour ça que je plaide pour un G3 de la Federal Reserve Bank, de la Banque Centrale Européenne et de la Banque Centrale Chinoise, pour que nous marquions clairement que nous n'avons pas vocation à vivre sous la tutelle américaine, sous ce privilège du dollar qui nous lie les mains en matière diplomatique. Aujourd'hui, nous voulons défendre une réintégration de l'Iran au plan régional dans cette région. Nous n'en avons pas les moyens. Et nos entreprises sont obligées de geler un certain nombre de grands projets d'investissement. Donc oui, devenons grands. Sortons de cette situation infantile de l'Europe par rapport aux États-Unis. Je crois que leur Amérique a été un des piliers, leur Atlantique a été un des piliers de la diplomatie française et européenne. Je crois qu'il est temps de s'ouvrir au monde. La puissance bascule vers l'Asie. Retrouvons la capacité et la liberté de rechercher de nouveaux partenaires pour trouver de nouvelles solutions à ces crises.
Léa Salamé.
Un de vos amis, Alexandre Djouri, est dans le viseur des juges qui enquêtent sur le possible financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il a été arrêté en janvier à Londres. Il pourrait être extradé vers la France. Est-ce que vous souhaitez qu'il réponde aux juges français?
Je l'ai toujours dit. Je souhaite y répondre à la justice britannique d'abord et à la justice française. Et je souhaite que les conditions de sérénité pour que cette réponse ou ces réponses puissent être apportées soient trouvées.
Ça n'est pas le cas pour la sérénité en France?
Mais la sérénité, c'est un travail constant.
Oui, bien sûr. Ça peut être aussi un préalable à l'exercice de la justice. Ça n'est pas le cas, elle n'est pas réunie aujourd'hui, les conditions de la sérénité.
Je n'ai pas de jugement à porter. Je souhaite seulement que les conditions de sérénité soient là pour que
Mais donc c'est un message aux juges? Vous avez l'impression que les juges manquent de sérénité dans cette affaire-là?
C'est un souci que j'exprime. Je crois qu'il est très important que tout ça se fasse dans la sérénité.
Pourquoi il n'affronte pas ces juges? Pourquoi il ne vient pas en France répondre?
Je ne vais pas parler à sa place. Je ne crois pas qu'il ait jamais refusé de s'exprimer quand il a été interrogé en Suisse. Donc je crois que c'est cette sérénité et cette responsabilité en même temps, parce que je crois que devant la justice, nous avons chacun un devoir qui est celui de donner les explications quand ces explications nous sont demandées.
Et vous êtes toujours amis?
Et nous restons amis, bien sûr. Vous savez, je ne crois pas que l'amitié soit quelque chose qui puisse évoluer en fonction des difficultés, au contraire.
Dominique de Villepin, restez avec nous, il est 8h56.